écoutez les programmes du studio Kalangou. Messieurs, mesdames, c'est l'heure du journal et c'est dans une présentation de Hawa Maman. Formation hier du nouveau gouvernement au Niger. Dans les régions de Dosso et Zender, certains citoyens saluent le nombre restreint de portefeuilles ministériels comparativement aux précédents. Notification de cas suspects de rougeole et de méningite dans 63 districts sanitaires au Niger par l'ONG Médecins Sans Frontières. Elle s'attelle pour une riposte avec les autorités. En partie magazine, les personnes en situation de handicap face aux conséquences de la pandémie de la COVID-19, celle de Tillabéri n'arrive plus à exercer convenablement leurs activités. Le nouveau gouvernement du Premier ministre Ouhoumoudou Mahamadou est connu depuis hier 7 avril. C'est un gouvernement de taille raisonnable et composé aussi bien de technocrates que d'hommes politiques, estiment certains habitants de la ville de Zender, interrogés ce matin par Moustapha Mamansani.
C'est un gouvernement composé et de technocrates et du politique. Au regard de ce que le président Bazoum, dans son discours à l'investiture, a proposé donc comme ambition, qu'il fera la promotion de la compétence et de la moralité, même si, il faut le dire, la compétence a pris le dessus sur la moralité. On a assisté à la mise en place un gouvernement qui est plus ou moins politique. Mais une chose est d'avoir la compétence, une autre qui est de la mettre en pratique. Donc, attendons voir les maçons au pied du mur pour voir si vraiment il y a un vrai maçon ou s'il n'est qu'il y a non.
La compétence, on n'a pas de problème. On sait que les gens ont la compétence de faire la gestion. Mais quand on touche les côtés moralité, là, il y a vraiment un sérieux problème. Et la deuxième des choses, j'ai l'impression qu'il y a des têtes, on peut dire des gens qui sont intouchables. Et c'est comme s'il y a une influence énorme.
Nous assistons vraiment à une réduction d'un gouvernement pléthorique. Encore une des choses très importantes, vraiment les jeunes sont impliqués.
Certains habitants de Dosso saluent également la réduction des portefeuilles ministériels et la prise en compte des jeunes dans le gouvernement nouvellement formé. On les écoute au micro de notre correspondant Aoussi Abdrahmane.
Par rapport à la formation du gouvernement, mon point de vue c'est salutaire parce que il y a moins de ministres et il y a plus de gens dans le gouvernement. Et aussi, il y a ceux qui les ont suivis en prétendant avoir des postes. On n'a pas vu leur nom. Vraiment, c'est bien.
Il n'y a pas de femmes, elles ne sont pas nombreuses. On ne sait pas ce qui se passe vraiment. Pour certains travaux, ils doivent impliquer les femmes pour des meilleurs résultats.
Nous nous réjouissons vraiment de la formation de cette équipe gouvernementale. Nous avons constaté qu'elle est composée d'assez de jeunes et nous en sommes fiers. Et puis, il y a moins de ministres par rapport au précédent gouvernement. Pour nous, c'est un signe que le président Bazoum veut véritablement travailler.
Dans ce nouveau gouvernement, il y a moins de ministres qu'avant. Même maintenant, s'ils peuvent diminuer la taille de ce gouvernement, c'est bon. Il faudrait aussi que ce gouvernement pense aux jeunes de ce pays.
Le gouvernement de Ouhoumoudou Mahamadou est composé de 33 ministres comparativement à l'ancienne équipe de Brigitte Raffini qui comptait une quarantaine de ministres selon Munkela Issa Moussi, président de l'Association des jeunes diplomates et politologues. Cette réduction est une avancée démocratique, mais au-delà de cette réduction, le politologue pose des questions de liberté d'action. On l'écoute au micro d'Olivier Assogbavi.
C'est d'abord une avancée politique qu'il faudrait saluer. Hier, c'était 40 et quelques ministres. Aujourd'hui, on se retrouve avec une trentaine de ministres. Je pense que là aussi, c'est un point sur lequel il faudrait dire chapeau au nouveau président, au nouveau chef de gouvernement. Mais tout de même, je pense que cette composition du gouvernement aussi, c'est un défi énorme qu'il faudrait aussi relever. On ne sait pas, mais c'est possible que l'ancien président ait aussi son mot à dire dans la gestion des biens publics et dans la composition même de ces nouveaux gouvernements. Donc là, vraiment, c'est une question aussi qu'il faut se poser. Est-ce que le nouveau gouvernement sera autonome pour diriger ses tâches? Bon, là, l'avenir nous le dira en tout cas. Mais si on regarde comment la caisse publique a été vraiment massacrée, je pense que cette fois-ci, avec les réductions de différentes tâches, le budget étatique aussi, en tout cas, la caisse publique va un peu souffler.
Mouvement d'humeur hier après-midi des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ils ont bloqué le passage sur le pont Kennedy pour manifester leur mécontentement face au retard de paiement de la bourse et de certaines réformes académiques. Des précisions avec Alassane et Fred Mouloul, membres du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens au micro de Tavnan Foudey Ahmed.
c'était une barricade juste pour exprimer le mécontentement de l'UNAM par rapport d'abord au paiement de l'ANAP qui crée une certaine discrimination au niveau des étudiants de l'université de Niamey, la première tranche. Et ensuite, les réformes académiques suicidaires qui ne sont pas toujours suspendues par certaines autorités académiques au niveau de certaines facultés. Ainsi que bien d'autres revendications sociales, notamment les réclamations d'aide sociale, les paiements des bourses, parce qu'il y a des arrêtés de plus de 5-6 mois. Et encore, il y a beaucoup de défis au niveau des infrastructures. Mais la principale revendication, ou les deux principales revendications, sont en réalité la question du paiement de la bourse et la question liée aux réformes académiques, notamment au niveau de la faculté des lettres.
Depuis le début de l'année 2021, selon les chiffres de l'équipe de l'ONG Médecins sans frontières, 63 districts sanitaires sur 72 au Niger ont notifié des cas suspects de rougeole et quelques poches de méningite. En collaboration avec le ministère de la Santé, l'ONG essaie d'apporter des réponses à cette situation sanitaire, nous a confié Dalil Mahamat Hadji, chef de mission MSF Niger.
Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, voilà, on a constaté quand même beaucoup de cas qui sont notifiés à travers le pays. On peut dire que c'est des cas qui sont apparus beaucoup plus tôt, alors que d'habitude, la haute période de transmission, c'est entre mars, avril, mai. Mais là, c'est depuis le début de l'année, janvier, février, que beaucoup de districts ont quand même notifié plusieurs cas, que ce soit des méningites ou des rougeoles dans le pays. On travaille en collaboration avec le ministère de la Santé. Plusieurs réunions de concertation et de préparation ont eu lieu. Et aussi, des actions concrètes ont été aussi menées. Si je prends l'exemple de Niamey, de campagne de vaccination avec le support de Médecins sans frontières dans la commune de Niamey 3 et dans la commune de Niamey 4 ont eu lieu. Environ 50 000 enfants ont été vaccinés. Et si je prends l'exemple de la région de Zender, précisément à Magaria, une campagne de vaccination est en cours pour la méningite. Et là, environ 165 000 personnes ont été vaccinées contre cette maladie.
Il était au micro d'Olivier Assogbavi. Le leadership et la participation à la vie publique et politique des femmes handicapées au centre d'une rencontre organisée les 6 et 7 avril passés à Ouagadougou au Burkina Faso. C'est une initiative de la Fédération ouest-africaine des associations des personnes handicapées qui a réuni une trentaine de pays. Le Niger a été représenté par Kadi Moumouni qui explique les préoccupations de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Des propos recueillis au téléphone par Rahilatou Soumana.
L'objectif, c'est de réfléchir sur le leadership des femmes handicapées et leur participation à la vie publique et politique. C'est de partager les expériences, des exemples de participation des femmes battantes qui participent à la vie publique et politique et de formuler des recommandations pour que les États puissent aller de l'avant et promouvoir la participation des femmes handicapées. C'est vrai que je suis une personne atteinte d'albinisme, mais je représente la Fédération nigérienne des personnes handicapées. La préoccupation de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, c'est de voir que toutes les femmes handicapées du Niger puissent être autonomes et qu'elles puissent effectivement participer au développement du pays, participer à la gestion des affaires publiques et politiques. L'objectif commun que toutes les fédérations poursuivent, c'est de voir une société où les femmes handicapées vont participer sur la base de l'égalité avec les autres.
Dernier jour ce jeudi de la rencontre sous-régionale de 72 heures de la plateforme multi-acteurs agroécologie dénommée Raya Karkara sur la reconnaissance des systèmes semenciers paysans et la mise en œuvre des droits des paysans aux semences. Plusieurs thématiques ont été abordées en lien avec une meilleure politique des droits de conservation des semences paysannes en Afrique de l'Ouest. Silga Lucien, membre de la délégation du Burkina Faso, explique au micro de Mokhtar Amadou.
Nous nous sommes rendus compte au fil des échanges que nos semences paysannes sont les plus résilientes. Il y a une réalité qui est commune à tous les pays du Sahel. La vérité est que la promotion des OGM à laquelle on a assisté par exemple au Burkina Faso et la promotion des semences certifiée qu'on connaît dans tous les pays du Sahel contribue à l'érosion de la biodiversité. Cela veut dire que les paysans sont de plus en plus en train de perdre leurs semences. Et cela est dangereux. Ce qu'on ne dit pas aux paysans, c'est qu'une fois que les paysans auront perdu les semences traditionnelles, les semences paysannes, ils seront totalement dépendants des semences développées par l'industrie semencière. On les interdira désormais d'échanger et de vendre librement des semences. Donc il est important de promouvoir les semences paysannes parce que c'est par là qu'on peut toujours garder sa souveraineté alimentaire.
Dans la région d'Agadez, l'orpaillage est pratiqué sur plusieurs sites artisanaux. L'utilisation de produits nocifs dans le traitement et l'extraction de l'or n'est pas sans conséquence sur l'environnement, les hommes et les animaux. Ismaël Issoufou Hamidou, agent à la direction régionale de l'environnement d'Agadez, explique au micro de notre correspondant Moussa Momane.
Les solutions qu'on peut surtout utiliser dans le cas de traitement de l'or, c'est surtout donc d'abandonner le traitement mécanique. Ce traitement artisanal donc de l'or, vraiment c'est un traitement qui impacte beaucoup sur l'homme parce que tous ceux qui sont dans cette chaîne donc de traitement n'utilisent pas ce qu'on appelle des EPI, des équipements donc de protection individuelle pour faire ce traitement-là. Pour leur utilisation, moi je pense qu'il est conseillé vraiment de faire une utilisation plus moderne et une exploitation donc plus moderne donc de ce or-là pour au moins diminuer l'impact sur la population. Maintenant, pour remédier à tout cela, peut-être contrôler donc de manière régulière, en tout cas les différents systèmes donc de traitement ou bien d'orpaillage qui se trouvent donc dans la zone, contrôler par exemple leur alimentation, contrôler leurs conditions de vie et leurs conditions de travail parce que c'est important.
Partie magazine, les pensionnaires du centre de personnes vivant avec un handicap de la ville de Tillabéri pratiquent des activités génératrices de revenus, ce qui leur procure des sommes importantes. Cependant, depuis l'avènement de la COVID-19, leurs affaires tournent au ralenti, une situation qui pourrait pousser certaines dans la mendicité, estime Maimouna Adamou, pensionnaire du centre. Elle est interrogée par Balkissa Hamidou.
On fait un travail manuel, on fait des draps, du tricotage, des habits chauds pour enfants et des tenues avec jupe pour filles.
Qui vous a appris ce métier?
Quand la mairie nous a octroyé l'espace, on nous a mis à notre disposition un terre qui a commencé à nous apprendre, puis il a quitté. C'est Divisé qui nous a recruté une nouvelle maîtresse qui venait nous apprendre.
Est-ce que aujourd'hui vous êtes satisfaite de ce travail?
On est très satisfaite. Car même avec un métier aujourd'hui, ça marche, demain ça ne marche pas. On travaille en grand nombre, mais c'est Corona qui a freiné nos activités parce qu'on ne peut pas se regrouper. Les jeunes ne viennent pas tous les jours. Même s'ils sont là, on ne peut pas bien travailler. Maintenant, avec le froid, on arrive à vendre 3 à 4 complets dans le mois. Un complet à 7500 francs. C'est pour notre groupement. On fait les coutures ensemble et on les vend. Si on a besoin de quelque chose, on prend dans la caisse. Si on veut, on peut travailler pour son propre compte en faisant des draps pour vendre et satisfaire nos besoins.
Avez-vous eu un projet qui vous a appuyé pour exposer vos produits?
Si, même cette année, on était parti à Tawa avec Audi Niger pour une foire des handicapés. On a fait ça à Niamey d'abord. À travers les déplacements, on fait des nouvelles connaissances et aussi le fait de découvrir les endroits, c'est bien. Seulement, on ne gagne pas d'argent. Les gens viennent uniquement pour apprécier, après ils vont te dire qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, on a peur de se retourner vers la mendicité parce que ça n'a pas d'avantage. En faisant bien ton travail, on ne peut pas manquer de quoi manger. Mais s'il s'agit d'aller mendier, certaines personnes vont te donner l'aumône, d'autres vont te témoigner du Dieu.
Quel appel lancez-vous au gouvernement et aux personnes qui ont les moyens?
Nous voulons que le gouvernement et les personnes en bonne position nous aident à avancer dans notre travail. C'est eux qui nous ont dit de ne pas mendier, donc c'est à eux de nous aider.
Et c'est la fin du journal de ce 8 avril 2021. À suivre le forum Les violences basées sur le genre, cas de violence conjugale à Gaïa, ce serait avec Fadel Alou.